Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, salut à tous, c'est le premier débrief de cette saison 2025, premier Grand Prix qui lance bien, je sais pas s'il lance bien cette saison. En tout cas, il s'est passé plein de choses en Australie à Melbourne. Et je vous rappelle que le paddock RMC, c'est le débrief de toutes les courses, le lundi et le jeudi précédent chaque Grand Prix. Vous avez le warm-up pour vous donner toutes les informations avant le week-end. Si vous avez le temps, n'oubliez pas les 5 étoiles pour noter le paddock. C'est sur toutes les plateformes de téléchargement. D'ailleurs, on va peut-être lui donner 5 étoiles à ce Grand Prix. Je sais pas combien je lui mets. Allez, peut-être 3,5. Je vais demander à nos ingénieurs ce qu'ils en pensent. D'ailleurs, c'est un grand retour aujourd'hui. Notre team principal est là. Il s'est préparé tout l'hiver pour être au rendez-vous. Et encore, je ne sais même pas s'il a besoin de prépa. Il n'a pas besoin d'autant d'adaptation comme Lewis Hamilton pour être au rendez-vous tout de suite. C'est Jean-Luc Roy qui est avec nous. Salut mon Jean-Luc.
Hey, salut mon Nico, bonjour à tous. Ah non, je suis chaud bouillant là, il n'y a pas de problème.
Combien d'étoiles on lui met à ce Grand Prix sur 5, Jean-Luc? Tu lui mets combien, toi?
Ah, je t'ai trouvé un peu sévère. Moi, si c'est sur 5, je passe la barre des 4. Hein.
J'ai hésité avec 4. Ah ouais. Mais après, je vais vous dire pourquoi je mets 3,5. Les ingénieurs du paddock, Louis Gerbier et Alex Caldi. Salut les gars.
Hello. Salut Nico, salut Jean-Luc et salut tout le monde.
On est sur combien d'étoiles, là, les gars?
On part sur un 4.
3, 4.
Ah ouais. Moi j'ai mis 3,5 parce qu'en fait,
allez,
le truc c'est que.
Je te rejoins.
Sévère, le
m'a pas plu.
Non, mais parce que j'avais envie de voir les monoplaces un peu en conditions sèches, tu vois, pour voir un peu déjà les états de forme, les premières infos. Et au final, je sais pas si on peut
tirer. Il y a eu 3 tours, au 43ème tour, c'était ça.
C'est pas faux. Allez les gars, tout de suite, on va se plonger dans ce Grand Prix d'Australie à Melbourne qui nous a réservé plein de surprises. Le classement de ce Grand Prix d'Australie. Je vous parlais des surprises, vous allez voir, il y en a eu dans le top 10. Victoire de Lando Norris, sa 5e victoire en Formule 1. 9 dixièmes seulement d'avance sur le quadruple champion du monde, Max Verstappen, qui aura poussé jusqu'au bout dans les retranchements Norris. George Russell complète le podium avec sa Mercedes. Un très bon week-end pour Mercedes d'ailleurs. 4e, Alex Albon sur sa Williams à un peu plus de 12 secondes de Norris. 5e, le premier rookie, Andrea Kimi Antonelli. On va en reparler. Il a fait une course de zinzin. Lance Stroll, 6e sur son Aston Martin. J'aurais pas mis un copec sur Stroll, 6e. Je vous l'avoue. Nico Hülkenberg, 7e au volant de sa Sauber. Derrière, déception pour Charles Leclerc, 8e. Oscar Piastri, 9e. Et vous allez voir qu'il s'est passé plein de choses dans cette course pour Piastri. Et Lewis Hamilton, déçu également, 10e au volant de sa Ferrari. Pierre Gasly est aux portes des points à la 11e place. Tsunoda, 12e. Esteban Ocon, 13e. Berman, 14e. Et derrière, 6 abandons, dont le français Isaac Hadjar, on en reparlera. Carlos Sainz également. Fernando Alonso et Liam Lawson, qui est passé complètement à côté de sa première course. Classement des constructeurs, je vous le donne. Égalité parfaite entre McLaren, 27 points, et Mercedes, 27 points. Red Bull est 3e avec 18. Points. Williams suit à la 4e position. Voilà pour le classement. Jean-Luc, j'ai envie de te dire que c'était un Grand Prix qui s'est un peu passé dans le chaos, surtout la fin de course. Lando Norris s'est imposé. Lando Norris nous avait dit avant la reprise de cette saison, vous allez voir, j'ai énormément appris l'an dernier, j'ai progressé. Ça s'est ressenti parce que cette course-là, elle avait toute la course piège pour Norris et il a été solide, malgré quelques erreurs, hein, tout n'a pas été parfait, mais solide du début à la fin quand même. Hein.
Oui, c'est ça Nico. En fait, dans ce genre de situation chaotique, et je vais rappeler le Grand Prix d'Australie justement 2010, hein, c'était le dernier qui s'était déroulé sous la pluie, et la victoire était revenue à Jenson Button qui était parti 4e. Vettel qui était en pole avait abandonné, enfin bref, je ne vais pas te refaire le Grand Prix de 2010, mais c'est dire que le revêtement sur ce tracé dans l'Albert Park, qui n'est pas un circuit permanent, il faut le rappeler, est extrêmement glissant, et dès qu'il tombe un peu d'eau, c'est de la glace, hein, littéralement. Donc effectivement, le tout c'est de commettre moins d'erreurs que les autres, ou bien, et ça a servi à certains, de ne pas être affecté par trop de dégâts quand tu commets une erreur. Parce qu'on y reviendra bien sûr, mais même le petit Antonelli, évidemment, on peut lui tresser tous les lauriers qu'il faut, mais au 17e tour, il part à la faute, il a de la chance, il touche rien. Donc c'est le cas aussi hein, de Charles Leclerc, hein, qui l'a reconnu. Donc si tu veux, le tout, c'était de commettre moins d'erreurs que les autres, et puis surtout de ramener la voiture à la maison. Et donc, dans ce contexte-là, on va évidemment disséquer ça plus à fond, mais Norris, effectivement, a fait une course très solide avec une excellente voiture. Hein, je le répète, je sais que ça ne lui plaît pas, mais la McLaren, c'est vraiment la meilleure, sous la pluie comme sur le sec.
Ouais, Alex, Norris taille patron pour cette première course. On s'y attendait un peu, hein, mais...
Non, on s'y attendait. C'était surtout une demande de confirmation, j'ai envie de dire, je pense, dans le sens où, par rapport à l'année dernière, on en a longtemps parlé lorsqu'on a fait la prévue de la saison sur l'aspect est-ce que Lando Norris va montrer qu'il est prêt à devenir champion du monde ? Honnêtement, au vu de ce Grand Prix d'Australie, moi je pense qu'il est prêt à devenir champion du monde parce qu'il a été. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'aspect pression. Il a résisté à la pression Max Verstappen, il a résisté à la pression des conditions climatiques qui étaient absolument chaotiques. Alors certes, il y a eu une unique petite erreur, c'est quand lui et Oscar Piastri sont sortis de la piste au moment où il a commencé à repleuvoir alors qu'ils étaient en slick. Mais derrière, il y a eu quand même une bonne gestion de la situation. Il est d'ailleurs rentré au stand au moment où il fallait, alors que on a vu derrière Verstappen, il a continué alors qu'il ne fallait pas continuer. Là, c'était une petite erreur. Dans la grande globalité, en fait, McLaren et Lando Norris ont juste montré qu'ils avaient appris des erreurs de l'an dernier, qu'ils avaient compris ce qu'il ne fallait plus faire. C'était d'ailleurs l'une des déclarations de Lando Norris après la course. Hein, et il a dit, cette course a montré qu'on avait justement appris à ne plus faire les mêmes erreurs que l'an dernier. Et c'est dans ce sens où je me dis, c'était pas à la base sûr et certain qu'ils viennent gagner en Australie, surtout vu des conditions climatiques chaotiques. On sait que sous la pluie, Lando Norris était quand même beaucoup loupé par le passé. La Russie 2021, si je me trompe pas, et dans d'autres situations aussi. Et là, il a réussi à triompher avec brio. Alors oui, il a la meilleure voiture. Oui, c'est un fait. Maintenant, il faut aussi confirmer. Et j'ai hâte de voir la suite de la saison, surtout sur l'aspect de comment McLaren va aussi soutenir Lando Norris dans les moments importants et dans les moments aussi cruciaux, on va dire ça ainsi, quand il faudra prendre des décisions assez dures, notamment aussi de la gestion avec Oscar Piastri.
Ouais, on va en reparler, bien évidemment, de cette gestion, de cette bagarre avec Piastri. Juste avant de te faire réagir, Louis, on va écouter le vainqueur de ce Grand Prix d'Australie, Lando Norris, au micro de Canal.
Yeah, this is impossible to predict. You know, you go into a corner, you see some rain on the visor, but you don't know if you need a break.
Dans le virage, tu vois la pluie, tu sais pas si tu dois ralentir 5, 10, 20 km/h, tu ne sais pas. Faut prendre le virage, moi j'ai foncé tout droit et j'ai foncé hors de la piste. Ça a été une journée vraiment très difficile. C'était tellement facile de se cracher à plusieurs moments. J'ai failli prendre le mur, j'ai failli abandonner, je pense qu'on est nombreux dans cette situation. Et se battre avec Max à la fin, c'était pas facile, donc... C'est une victoire vraiment gratifiante.
It shows how much of a fine line because this half of the track, the first half was completely dry. I owe a lot of to the team because the team were prepared for a moment like this.
Je dois beaucoup à l'équipe car elles étaient préparées à cette situation, à cette course et à cette fin de course. C'est vrai que ça aussi, Louis, c'est important dans ce que dit Lando Norris. McLaren a bien géré stratégiquement. Alors. Bon, à bien gérer. En tout cas, à gérer le cas de Norris. Le cas Piastri, c'est peut-être différent. La gestion des pilotes, il y a peut-être un débat là-dessus. Mais stratégiquement, ce qu'ils ont fait, la relation de Norris avec ses ingénieurs, l'arrivée de la pluie, de cette averse-là, aux alentours, après le 40e tour, ils ont plutôt bien géré ces événements-là.
Ils ont pris le taureau par les cornes, ce qui avait manqué l'année dernière, où souvent ils subissaient.
D'habitude, c'est Red Bull hein, par les cornes.
C'est vrai, voilà.
Je vais pas la louper, celle-là.
Mais l'année dernière, ça a été leur défaut. Et là, sur ce Grand Prix, ils montrent qu'ils ont sûrement progressé. Moi, je suis satisfait parce que j'avais vu la victoire de Norris et qu'à la fin, j'ai cru qu'ils allaient encore me foutre en l'air mon prono. Et en fait, il a tenu. Et il a tenu peut-être parce que justement, il a passé un cap et qu'à ce moment-là, il est rentré dans les pits de lui-même. Ils se sont concertés, évidemment, mais tu vois, peut-être qu'il a aussi imposé « Non, je sens qu'il faut rentrer maintenant ». super, super move, mais comme on l'a entendu dans le son, il faut quand même se rappeler que dans le virage 13, là, quand les deux ils partent, ça peut aussi être un fiasco total à pas grand-chose.
On n'est pas passé loin de la catastrophe.
On passe à un petit coup de raquette qui n'a pas d'un double DNF quand même. Et là, ce matin, enfin cet après-midi, on serait en train de dire non, mais McLaren, ils apprendront jamais, ils y arriveront jamais. Donc parfois, ça se joue à rien. Et tant mieux pour Norris. Et après, pour revenir juste sur le point entre les deux, comment choisir l'un ou l'autre, les faits sont déjà un peu compliqués pour Oscar, parce que là il y a déjà 23 points de différence, quoi, c'est ça.
Et surtout qu'il y en a un qui s'est sorti, qui a fait qui a pas réussi à dealer, on va dire ça ainsi, avec les complications climatiques. Il y en a un qui a réussi à s'en sortir vis-à-vis de la situation. Je sais pas si on peut dire que c'est un manque de chance pour Oscar Piastri, parce que les deux Norris, c'était la même situation, il s'en est sorti. Oscar Piastri,
donc tout ça fait que ça c'est peut-être déjà un petit tu vois, il pointe le nez devant Piastri dans la hiérarchie, et je pense que ça serait une bonne chose pour Andrea Stella et Zach Brown de rapidement dire on verra, mais on sait qu'ils le feront pas.
C'est ce que j'allais dire, Jean-Luc, c'est peut-être un peu tôt pour le faire.
Non, faut pas surtout tuer Piastri non plus, évidemment, mais
surtout qu'on a vu que Piastri, à un moment, il est plus rapide que Norris, Jean-Luc. Bon, il y a cette erreur là au 44e tour, mais franchement, il va plus vite, quoi.
On peut en discourir longtemps, parce qu'effectivement les consignes entre pilotes, bon là il y en a une très clairement, parce qu'à ce moment de la course, eh bien Piastri était plus rapide, c'est clair, il revenait sur la boîte de vitesse de Norris qui était devant. Alors évidemment, c'était au moment où on allait rattraper des attardés, donc Zach Brown, qui essaie toujours de trouver des explications rationnelles à tout, a dit on sécurisait le dépassement des attardés, on attendait de savoir ce que la météo allait devenir, et après on leur a dit d'attaquer. Sauf que Piastri, il a respecté la consigne, il a dit ok, donc il a perdu 2 à 3 secondes, il ne les a jamais retrouvés. Parce que, évidemment, quand tu demandes à un pilote, puis en plus, c'est perturbant, malgré tout. Donc, j'ai pas de jugement là-dessus. Ils l'ont fait, ils sentaient qu'il fallait le faire à ce moment-là, pour sécuriser justement la première position, on va dire, sur la piste de Norris. Mais moi, je crois que le choix, effectivement, il est assez clairement fait, là, d'entrée. C'est un peu tôt, au premier Grand Prix, quand même, sincèrement, il y en a encore 23 à venir. Tu sais pas du tout ce qui va arriver. Et puis, comme vous venez de le souligner tous les deux, ils ont eu beaucoup de chance, les pilotes McLaren, parce qu'ils pouvaient terminer dans le rail pareil. Et comme tu le disais, Louis, à ce moment-là, on dirait ils sont bons, mais ils sont encore un peu jeunes et tout. Ils ont eu du bol, parce qu'il en fallait du bol. Comme Charles Leclerc qui part en tête à queue et qui perd 3-4 places, mais il se récupère. Comme Antonelli, je l'ai dit, au 17e tour. Bref, c'était un Grand Prix où il fallait ramener la voiture à la maison une nouvelle fois pour prendre des points. Et ils l'ont fait tous les deux. Et la chance, entre guillemets, parce que sincèrement, ils te le disent, les pilotes, quand ils perdent l'adhérence comme ça sur le mouillé, sur une piste comme ça, ils deviennent passagers de la voiture. Donc je veux bien que le type ait du talent, mais non, il a de la chance ou il n'en a pas, point.
Ouais. Toi, tu sens, Jean-Luc, que ce qui s'est passé, quand même, ça montre que McLaren a déjà un peu dégagé sa hiérarchie entre Norris et Piastri ?
Pour moi, oui. Je crois que c'est clair. De toute façon, on s'y attendait un petit peu. Celui, le prétendant au titre naturel, j'allais dire, dans tous les sens du terme, c'est évidemment Norris, parce que Piastri est plus jeune. Il est plus jeune dans tous les sens du terme, plus jeune en âge et plus jeune dans l'écurie. Celui que tout le monde attend, je vais oser le dire, allez, on y va. Norris, il est britannique. D'accord ? C'est quand même très important. C'est lui le golden boy. Piastri, on sent qu'il est plus rugueux dans tous les sens du terme. Il est plus brut de décoffrage. Il est moins polissé. On sent bien que tout va dans le sens de Norris, qui a été vice-champion du monde quand même, qui a contesté la suprématie de Verstappen l'an dernier jusqu'au bout. Alors, pour moi, c'est le leader naturel de l'équipe. En plus, il le mérite, puisqu'il a terminé devant. Il a été plus rapide, y compris en qualif. Donc oui, le choix, il est déjà fait chez McLaren. Oui, je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt.
Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais Lando Norris a signé la pole position aussi. Alex.
Pour 84 millièmes en plus, c'est très peu.
Y a un des enseignements, Jean-Luc, on a parlé tout à l'heure, et toi aussi, tu l'as évoqué quand même, du week-end, malgré ces conditions météo changeantes et tout ce qui s'est passé, on a quand même la confirmation, Alex, que la McLaren, c'est la voiture qui va le plus vite. Au moment où on se parle, bien évidemment.
C'est surtout que c'est Il y a beaucoup d'écuries dans l'histoire de la Formule 1 où d'une saison à une autre, ils sont totalement dégringolés. Bon, la chance qu'a McLaren aussi, il faut le reconnaître, c'est qu'on est dans une fin d'ère réglementaire. Donc de ce fait-là, il y avait très très peu de risques qu'on puisse s'effondrer ou très très peu de risques, on va dire ça ainsi, de perdre vraiment autant par rapport à la concurrence, par rapport à Ferrari, par rapport à Mercedes et même par rapport justement à Red Bull. Mais quoi qu'il en soit, McLaren a su confirmer un statut qu'il devait avoir. Aujourd'hui, McLaren n'a plus le droit à l'erreur. C'est terminé. L'année dernière, c'était une succession d'erreurs. Cette année, ils n'ont plus le droit à l'erreur. On n'acceptera même plus l'erreur dans la globalité. Et McLaren a montré dans ce Grand Prix, dans ce Grand Prix d'Australie qu'ils avaient fait d'une bonne voiture et qu'ils sont prêts à assumer d'avoir une bonne voiture. Je me tiens, même statistiquement parlant, ça peut paraître anodin, mais c'est la première fois que McLaren lead les deux championnats depuis 2012. Ça fait un écho historique. Et aujourd'hui, McLaren est donc devenue cette équipe à battre, comme d'antan, comme elle devait l'être depuis par son histoire aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement appréciable aujourd'hui d'avoir un pilote comme Lando Norris qui a été accueilli par McLaren. C'était quand il est arrivé dans le giron aux alentours de 2017-2018, qui l'a mis en Formule 1, qui l'a soutenu, qui l'a aidé en tout point, qui a cru en lui, et que Lando Norris aussi a cru en McLaren à des moments où, on va dire, la performance de la voiture n'était pas au niveau, au rendez-vous. Je pense notamment à 2021 où ça a pu être quelque peu compliqué, même s'il y a eu cette victoire en Grand Prix de Daniel Ricciardo. En 2022, il y a eu quelques complications, notamment avec l'arrivée d'Oscar Piastri. En 2023, l'arrivée d'Oscar Piastri, ça a été compliqué. Et puis, Lando Norris, il avait même reçu une offre de Red Bull qu'il a refusée pour rester chez McLaren. C'est un signe. C'est tellement des signes engageants vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de la réussite de McLaren, vis-à-vis de la réussite de Lando Norris, qui font qu'aujourd'hui, cette victoire en Australie est réellement un signe que McLaren a clairement, enfin, aujourd'hui, la capacité de réagir et de devenir championne du monde, non pas seulement constructeur comme l'an dernier, mais surtout pilote, et enfin retrouver un titre pilote depuis Lewis Hamilton. 2007.
Et depuis Lewis, ouais, exactement.
Ouais. Ouais. Ils sont forts. Ils sont forts en tout cas sur ce début de saison. Tiens, je suis en train de relire la petite déclare d'Oscar Piastri qui dit « J'ai été incroyablement fort à chaque tour, sauf à un seul. » Voilà. Il rumine un peu. Il rumine un peu l'ami Piastri.
La malédiction quand même des Australiens. Hein. T'es en Australie. Hein,
c'est vrai.
Park, hein. C'est quand même fou. Hein.
Et jamais sur un podium. Hein, parce que vous vous rappelez, il y avait eu Ricciardo en 2014 qui avait été déclassé après. Donc il n'y a jamais eu un Australien non seulement vainqueur, mais même sur le podium. C'est terrible.
Ouais, puis Jack Doohan, j'ai l'impression qu'il va pas inverser les choses. L'ami Jack.
Quand la Pinto s'échauffe.
Ah, écoute, quand on va aborder le chapitre des rookies, il y a tellement à dire.
On se garde ça. On se garde ça pour tout à l'heure. On va embrayer sur Max Verstappen, Louis. Max Verstappen. Bon, on s'attendait, on en a parlé avant le début de la saison. On s'attendait bien évidemment à ce qu'il soit présent. On savait pas trop où était Red Bull et où en était Red Bull. Il a été bon en qualif, troisième, limite. Alors, dans les déclats de Max, c'est marrant parce qu'on le dit beaucoup avec Jean-Luc dans chaque podcast. C'est pas le gars qui fait des langues de bois, Verstappen. En général, il dit les choses. Et là, tu sentais qu'en arrivant en Australie, c'était bon, on n'a pas la meilleure voiture. Après la qualif, quand il fait P3, il dit bon, bah, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Limite, je suis ravi d'être là. Après la course, deuxième, tu sens qu'il a fait un truc où il dit bah, de toute manière, on ne pouvait pas prétendre à mieux. Tu as l'impression qu'il a maximisé tout ce qu'il pouvait faire ce week-end vers Verstappen.
Très beau jeu de mots. Très beau jeu de mots.
Ouais, oui. Et il termine à 9 dixièmes, hein, un peu moins de 9 dixièmes. Ouais. Donc, ça joue à rien, quoi.
Ouais, et puis à la fin, il aurait pas fallu quelques tours de plus parce que tu avais la sensation que ça revenait presque. Non, mais surtout, tu sais, tu as commencé ta question en disant on sait pas trop où Red Bull en est. Moi, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on le saura vraiment, puisque Max Verstappen, c'est presque une entité indépendante. C'est-à-dire que quand tu le mets dans une voiture qui peut être peut-être la troisième, peut-être la quatrième du plateau, il fait deuxième. Et puis, comme l'équipier, il est très vite perdu, tu vas pas vraiment, te reposer sur les performances du coéquipier pour savoir un peu ce que vaut la voiture. Donc, en fait, Red Bull, c'est très compliqué de savoir réellement ce que la voiture vaut dans la hiérarchie. Puisque tu as un extraterrestre et puis quelqu'un qui, de par la situation, va toujours avoir du mal à donner à 100%. Donc c'est assez atypique. De toute façon, ça fait 6 mois ou plus même qu'il maximise, parce que même quand il avait la meilleure voiture, il laissait rien à personne. Et quand il a commencé à ne plus l'avoir, il prenait tous les points possibles. Et on se l'était dit au retour de Norris en fin de saison. Est-ce que Norris peut le faire ? Et on était plusieurs autour de ces micros à se dire on sent que Verstappen va réussir à prendre les points nécessaires pour garder le titre. Et ben là, il recommence pareil, c'est-à-dire que là, bah, il pouvait, comme tu l'as dit, pas faire mieux que deuxième, bah, il l'a fait. Voilà.
Il l'a fait, c'est malgré tout la fin d'un record exceptionnel pour Max Verstappen.
Oui, c'est vrai.
1029 jours consécutifs en tête du championnat.
C'est un record.
C'est un record, ouais. Mmh. Et ça s'arrête là.
C'était les Schumacher deux fois, sinon avant. C'était beau. Michael.
On n'a pas dit qu'il est capable de reprendre la tête la semaine prochaine, mais bon.
Terminé pour le record. Peut-être pas aussi longtemps, je pense.
Oui, ouais. On va l'écouter, Max Verstappen, après sa deuxième place.
I think in general, on pure pace today, P3 was the only, like...
Je crois qu'en termes de rythme, la place numéro 3, c'était celle qu'on pouvait avoir le mieux. De toute manière, dans ce genre de conditions, ce qui compte, c'est de ramener la voiture au garage. On n'avait pas le rythme de McLaren en course de toute manière. Donc, il fallait ramener la voiture au garage et c'est ce qu'on a réussi à faire. Bon, il a été encore très bon, Jean-Luc, hein, Verstappen, dans ces conditions. J'ai l'impression qu'on se répète. Oh, bien sûr, on se souvient tous du Grand Prix du Brésil où il avait été fabuleux. Mais là encore, dès qu'il y a un peu de pluie, dès qu'il s'agit de parler pilotage, en fait, il est toujours là, quoi. Il répond toujours présent.
Bah écoute, comme tu dis, on se répète quand même depuis un bon moment. Bah pour moi, même après ce Grand Prix-là, c'est lui le meilleur pilote, je suis désolé, mais c'est évident, parce qu'il fait des exploits avec une voiture qui est encore une fois la quatrième du plateau. Hein. Et le résultat en qualif, on l'avait bien compris, 3, c'était optimisé au maximum, parce que la voiture, encore une fois, on se moquait un petit peu, enfin gentiment, de Perez, on ne peut pas se moquer d'un pilote, encore une fois, on a beaucoup de respect. Oui, mais Lawson, Lawson, qu'est-ce qu'il en fait ? Rien du tout, mais rien, ni en essai, ni... Bon, ça veut dire que Max, on va dire c'est normal, c'est un rookie. Oui, un rookie après 11 Grands Prix. Enfin bref, non, ça veut dire clairement qu'il n'y a que Max qui est capable de tirer le meilleur de cette monoplace, qui est encore une fois la quatrième du plateau, j'incite. Elle est même derrière les Ferrari, pour moi, hein, derrière les Mercedes, évidemment. Donc c'est peut-être même pas la quatrième, mais vraiment, il a un talent extraordinaire dans toutes les conditions. Alors particulièrement sur le mouillé, ça on le savait. Lui aussi, il a été clair. Alors, il a dit j'ai failli m'y mettre un paquet de fois également, mais il s'en est sorti. Après, il faut un petit peu de chance. Bon, on appelle ça le talent si on a envie, mais un petit peu de chance. Il commet une erreur hein, quand il perd la deuxième place et que Piastri la récupère, mais il se récupère. Là, c'est du talent parce qu'il reste sur la piste. Hein. Il arrive à gérer le blocage de sa roue avant gauche, si je me rappelle bien, et il arrive à rester sur la piste et il perd un minimum de temps. Bon, il cède la deuxième place. Et là, on voit le vrai rythme des McLaren, vous vous rappelez. Elles s'en vont, toutes les deux. Ouais. Elles s'en vont. Et là, le talent de Max, il est là. Il fait ce qu'il peut, mais il ne peut rien faire. Donc, je suis désolé, je sais très bien, et je ne sais pas pourquoi, ça vexe toujours les pilotes quand ils sont devant et qu'on leur dit « Oui, mais t'as la meilleure voiture. » Ils ont toujours « Ah oui, mais non. » Mais si, la McLaren, c'est la meilleure voiture de très loin. Et je te dis, on n'aura jamais la preuve. Hein. Il n'y a qu'à mettre Max dans une McLaren et on va voir ce qu'il en fait.
Ah bah là, il y a trop d'avance. Ouais.
Et ben voilà, on est tous d'accord. Donc voilà, ça y est. Là, on est d'accord.
Mais c'est vrai, pour rebondir, j'ai retrouvé les écarts qu'il y avait au moment du 34e tour, juste avant le crash de Fernando Alonso. T'as Norris qui est premier avec Noah Piastri qui est à 3 secondes 5 derrière. Puis derrière, Verstappen, il est seulement, même si c'est un peu long, mais il est seulement à 18 secondes derrière les McLaren. Incroyable. Tandis que Russell, il est à 32 secondes derrière. Donc c'est assez flamboyant de voir Verstappen qui a réussi à tenir, allez, on va dire, une vingtaine de tours derrière Lando Norris et avant l'erreur justement sur Oscar Piastri, avant que ses pneus s'effondrent. Mais c'est quand même assez flamboyant de voir que Verstappen est quand même pas si loin que ça des McLaren avec une, je pense qu'on va dire, une modeste Red Bull.
Ouais, et puis pour revenir sur sur les chiffres, les nombres que tu viens de donner, ça peut faire un petit peu peur sur des grands prix, on va dire, qui vont se faire sur du sec où la logique va être respectée. J'ai peur que ça soit un peu soporifique, pardon, avec deux voitures orange qui ont un demi-tour d'avance. Ça, tu vois, faudrait pas que ça nous fasse la saison de Red Bull il y a deux ans.
Et c'est surtout qu'il y a, en l'espace de 6 semaines, on a 5 grands prix pour réagir et apporter des améliorations.
Quasi
et comprendre
impossible.
Et se poser à tête reposée pour trouver des solutions. Ça va être très compliqué. Donc, j'ai pas envie de dire qu'on est parti sur une petite hégémonie McLaren sur le début de saison, mais. Au vu de la
figée,
on veut pas le dire, mais on le pense tous.
Mais on le pense.
on prend pas trop de risques, en tout cas si on dit ça. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du déroulé du Grand Prix. Bon, il y a eu 23 derniers tours exceptionnels. Il y a cet accident d'Alonso là au 34e tour qui relance totalement la course. Et après l'arrivée de la pluie, on le disait là, 42e, 44e ouais. tour qui change tout. Ouais, 44e. On le disait Jean-Luc, hein, la RB21. Bon, c'est pas la meilleure voiture, ça se confirme. Ça manque de rythme aussi par rapport à la Mercedes. Par exemple, on a la sensation qu'ils sont un peu plus loin à Red Bull. Hein.
Ah oui, oui. Pour moi, très clairement, là, c'est une nouvelle fois le talent étincelant de Verstappen. Allez, c'est promis, j'arrête, en tout cas dans ce paddock, de dire ça. Mais c'est vraiment, il domine par son talent les autres pilotes. Alors, on a un Russell qui est excellent. Hein. Il fait un bon Grand Prix, Russell, vraiment. Il ne démérite pas. Lui, il ne fait pas d'erreur. Tiens, à ma connaissance, ouais. il a eu des chaleurs comme tout le monde, mais il ne fait pas d'erreur. Donc, il est solide, il est là et il tire le meilleur de la Mercedes, qui est donc sur ce Grand Prix-là, en tout cas, peut-être la deuxième monoplace du plateau. On parlera de Ferrari après, où Charles a honnêtement reconnu tant en qualif qu'en course qu'il n'était pas au niveau là, cette fois-là. Pourtant, je l'adore, hein, mais là, il n'a pas tiré le meilleur de la Ferrari, alors que Russell l'a fait. Donc, très bon boulot. Et puis, corroboré par le bon résultat, excellent. Par parenthèse, Nico, il termine quatrième finalement, Antonelli, parce que tu sais qu'il y a eu un pataquès. Oui, on a voulu, on lui a mis 5 secondes de pénalité, puis il les a récupérées sur le tapis, puisque Mercedes a déposé réclamation et qu'elle a été admise. Donc, il a récupéré la quatrième place, ce qui est formidable, évidemment.
Albon,
donc
5e.
On a les Mercedes 3 et 4 hein, quand même. Donc ouais. on a peut-être le potentiel ordre du plateau avec les Ferrari qui n'étaient pas à leur place, je viens de le dire, qui sont à peu près du niveau des Mercedes. Mais bon, en termes de performance des monoplaces, c'est clair que c'est comme ça que ça s'établit. Mais très bon Grand Prix de Russell, il faut le souligner. D'ailleurs, il était content de sa course. Il est solide, il est là, mais il n'est pas au niveau des McLaren. Voilà.
Ouais, c'est vrai, tu fais bien de le dire. J'avais fait une petite capture d'écran du classement, mais avant, avant la réintégration d'Antonelli.
C'est en F1, les courses continuent après l'arrivée.
Ouais. Bon, on va ouvrir le dossier Ferrari. Les gars, qu'est-ce qui s'est passé pour Ferrari? C'est compliqué de lire le week-end de Ferrari. On pensait qu'ils étaient prêts. Alors, OK, ils avaient changé énormément de choses sur la voiture, on l'avait dit, mais les essais étaient plutôt bons. Même les essais à Melbourne, là, quand même, on voyait qu'il y avait de la perfo. Et tout au long du week-end, les pilotes n'ont pas réussi à améliorer. Ils se sont trouvés en qualif, en course. Mauvais choix stratégique. J'ai envie de dire que pour la première fois, peut-être, là je vais te faire réagir sur ça Jean-Luc, pour la première fois depuis que Fred Vasseur est arrivé, on a eu la sensation que Ferrari n'avait pas optimisé tous les scénarios possibles sur ce week-end-là et était un peu pris de court. C'était surprenant.
Alors, si tu me permets, Nico, on va venir après à l'erreur en course. D'abord, le contexte. Alors, effectivement, si on se reporte aux séances d'essai libres, les Ferrari étaient dans le coup un petit peu en deçà. Je prends parce qu'effectivement, Charles, à un moment, est à 2-3 dixièmes. On voit qu'il est derrière, hein, clairement. Mais il peut viser, effectivement, la deuxième ligne. Lui aussi, tu vas me dire, ça fait beaucoup de monde sur la deuxième ligne. Si on y met déjà Russell et Verstappen, il faut une troisième place, ça va être compliqué. Mais bon, il pouvait se retrouver sur la deuxième ligne avec un excellent tour de qualif. Il ne l'a pas sorti du tout, puisque, comme on le sait, il part seulement septième. Bon, le cas Hamilton, on va en parler un peu plus tard. Lui, il a fait globalement, moi je dirais, un bon Grand Prix pour un premier Grand Prix chez Ferrari. Mais Charles, là, n'a pas été au niveau. Alors, après, puisqu'on aborde évidemment le point délicat, c'est le fait d'avoir maintenu les monoplaces en piste alors qu'il commençait à pleuvoir pas mal au 44e, 45e tour, et on les arrête seulement au 48e, c'est un pari. C'est ce qu'a dit Fred, hein, Vasseur. Lui aussi, il n'a pas la langue de bois, il a dit, on a tenté un truc, ça n'a pas marché. Alors, je ne pense pas que ce soit, si tu veux, ils ne sont pas pris les pieds dans le tapis en croyant à ce qu'ils faisaient. Ils ont dit, on va tenter ce coup-là. Alors, l'erreur, c'est de l'avoir fait pour les deux, évidemment. Quand on a deux voitures qui sont là, les unes derrière, et au contraire, comme ça, on sépare ces deux pilotes, parce que, par parenthèse, Charles, je pense que quand il a claqué la porte sur le museau de la Ferrari d'Hamilton, c'est ouais. Effectivement, c'est bienvenue chez moi, en gros. Hein. Il lui a dit, voilà, mon pépère, c'est comme ça que ça va se passer, il n'y aura pas de cadeau. Alors, c'est sportif, hein. On ne va pas créer des problèmes où il n'y en a pas, et c'est logique. À ce moment de la course, Charles était un peu plus rapide que Lewis, compte tenu du fait qu'il connaît mieux la voiture et tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, le résultat est là. Il est quand même remonté 8e. Lui n'a pas été rattrapé par Piastri, qui, par parenthèse, remontait comme une balle, alors que Lewis n'a pas pu s'y opposer. Donc voilà, donc chez Ferrari, oui, il y a des questions à se poser. Mais non, Nico, à mon avis, ce n'est pas le même type d'erreur qu'il y a eu dans le passé, si tu vois ce que je veux dire, à l'époque de Binotto, hein, pour être clair. Ce n'est pas une grave erreur, c'est un pari raté. Maintenant, toujours à froid, après, c'est trop facile. Il aurait fallu le faire avec une voiture et pas avec les deux. Voilà.
Ouais. Alex, Louis, pareil un peu. Est-ce que ça vous inquiète ce qui s'est passé en Australie ou est-ce que c'est un one shot un peu voilà.
Mais Binotto, c'est pas la personne qui a un point de plus que, Fred Vasseur. Oui.
Mais oui, c'est vrai.
T'as
ça.
Raison, t'as raison. C'est pas Binotto, c'est le pilote.
Mais ouais, non, bah Ferrari, c'était les montagnes russes parce que t'as Charles, il gagne pas une séance d'essai, mais il termine premier sur la feuille des temps lors d'une séance d'essai. Tu te dis, bon, bah ils sont là. Derrière, ils sortent 7 et 8 en qualif, je crois, ou 8 et 9. Hein, où là, tu te dis, oula, c'est loin quand même. Et puis, tu vois des voitures, clairement du midfield devant eux. Partons du principe que c'est un raté.
Ce qu'ils ont dit, enfin, la théorie qu'il y avait, Louis, à ce moment-là, c'est de se dire, bon, ils ont bossé un peu sur les configurations pluie parce qu'on annonce de la pluie pour dimanche. Donc, c'est pour ça, ils n'ont pas optimisé à mort dans les conditions de la qualif.
C'est exactement ce que je dirais si j'avais pas une voiture assez rapide. Mais je pense qu'il y a peut-être que la voiture est là, mais qu'ils ont pas encore en effet trouvé les bons réglages ou quoi. Mais il va falloir que ça arrive parce que sinon on part clairement sur une saison décevante. En plus, ce dont on avait parlé, c'est que si la voiture n'était pas là ou les résultats pas là, avec toute l'attente qu'il y a autour de ce duo et en particulier de l'arrivée de Lewis Hamilton, ça peut vite, quand on connaît un peu la ferveur italienne autour de la Scuderia, ça peut vite tourner vinaigre cette affaire. Donc, voilà, exactement, ça peut te mettre la fièvre. Donc on va voir. Hein, on sait aussi que Melbourne est un circuit, un tracé particulier, et que être bon à Melbourne ne garantit pas d'être bon toute la saison et vice versa. En espérant que ça soit le cas pour la Scuderia.
Tiens, on va écouter Charles Leclerc au micro de Canal+, à la fin de la course, lucide comme d'hab.
Très honnêtement, ça aurait pu être mieux, rien que sans mon erreur, malheureusement, à la sortie du 11. Bon, il y en a beaucoup qui sont partis à l'erreur, mais c'est pas une excuse. Il faut que je sois meilleur que les autres, et je ne l'ai pas été aujourd'hui, clairement. Donc ça, c'est la première chose à pointer du doigt. Après, ensuite, il faut qu'on regarde. Je pense qu'il y avait quelques trucs à faire mieux. C'est toujours difficile d'avoir la stratégie parfaite dans ces conditions-là et d'anticiper exactement quand est-ce que le nuage où il y a vraiment beaucoup de pluie arrive sur la piste. Il a commencé à vraiment beaucoup pleuvoir en fait à la sortie du dernier virage. J'avais déjà passé la... Donc là, c'était à partir de ce moment-là, c'était trop tard. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas trop qu'on s'en veuille sur ça. Mais par contre, il faut que je m'en veuille pour l'erreur. Ça nous a coûté bien 4 places. Donc ça fait mal.
Il s'en veut, Alex Charles Leclerc, vraiment, et il le dit, je dois être meilleur que les autres, en fait. Si je veux gagner, je dois être meilleur que les autres, et je ne l'ai pas été. Franchement, c'est lucide.
Je comprends un peu ça, je comprends totalement sa déception, parce que, bien sûr, pilote de haut niveau, sportif de haut niveau, tu veux être le meilleur possible, mais la situation Ferrari dans la globalité était trop compliquée pour pouvoir performer. Alors oui, il y a eu des grosses erreurs stratégiques. Moi, le mot que je retiens par rapport à Ferrari, c'est la confusion. Je m'attendais pas en fait à avoir une telle confusion pour un premier Grand Prix, surtout avec toute la hype qu'on avait, toutes les attentes qu'on pouvait avoir au niveau de tout le travail qui avait pu être, allez, on va dire, communiqué via les insiders, on va dire ça ainsi, de la Skoda Ferrari par rapport à tout ce qui avait été fait en interne sur la voiture. Mais en même temps, c'est pas extrêmement étonnant de voir Ferrari en difficulté, parce que pour rappel, ils ont changé, ils disent avoir changé 99,9% de la voiture. Donc on aborde un premier Grand Prix sans réelle vraie compréhension du travail Grand Prix qui pouvait être réalisé. C'est fait juste mal de voir qu'il y a eu une telle confusion. Tu t'attendais nettement à mieux, on va dire ça ainsi, de la situation par rapport à Lewis Hamilton et à la manière dont ils pouvaient performer par rapport à ce Grand Prix. Il expliquait que le vendredi, il n'avait pas de confiance. Le samedi, il commençait à avoir de la confiance et qu'une fois le dimanche, il n'avait plus aucune confiance. Et d'ailleurs, ça en est suivi un Grand Prix où il se fait notamment dépasser par Oscar Piastri par l'extérieur. Magnifique d'ailleurs. Mais ça fait un petit peu mal de voir que Lewis Hamilton, son premier Grand Prix, a été dans une telle difficulté. Il y a eu aussi notamment des petites déclarations de gens peut-être en interne du côté de chez Ferrari qui expliquaient que Il pouvait y avoir une inquiétude concernant le package parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'interrogations. Il ne comprenait pas comment il pouvait débloquer le potentiel de la voiture. Il ne comprenait pas comment... c'est-à-dire que toutes les données en fait, expliquées réagissent effectivement sur la piste, mais elles ne fonctionnent pas. Et c'est pour ces déclarations-là que j'ai pu lire. J'étais en mode... Donc ça veut dire que là, on a tous eu une énorme hype sur la Scuderia. Ils ont expliqué qu'ils jouaient le titre en 2025 avec l'arrivée de Lewis Hamilton aux côtés de Charles Leclerc. Et on peut... avoir un début de saison assez catastrophique tout de même. Je ne pense pas que ce soit seulement la stratégie qui a fait défaut à Ferrari. Je pense que c'est surtout plein de choses, plein d'éléments stratégiques bien sûr, mais de l'interprétation et également juste de la compréhension de la voiture qui aujourd'hui est totalement nouvelle. Et Ferrari se cherche encore, sauf que si Ferrari se cherche encore sur le début de saison, sachant qu'il y a 2026 avec la nouvelle réglementation qui arrive, il va falloir très très vite se penser à 2026 et donc forcément... Allez, on va dire annuler les chances de titre vis-à-vis de 2025 et laisser McLaren, Red Bull et Mercedes se battre et laisser Ferrari sur le côté. Ce qui, si c'est ça, c'est une catastrophe absolue, du moins.
Sachant que devant, ouais, ça va très vite.
Et puis à l'inverse, McLaren va sûrement pouvoir bifurquer eux beaucoup plus rapidement parce que là, ils n'ont pas besoin de faire grand-chose pour tenir, tenir longtemps. Quoi. Ce que disait George Russell, il dit là, ils peuvent déjà dès demain se mettre sur 2026, ils sont tranquilles.
Ils vont être performants en 2025, ils le savent. Voilà, en tout cas, bon, après, attention, hein, Jean-Luc assez souvent, c'est une analyse après la première course de la saison dans des conditions très particulières. Tout le monde dit, on verra.
Faut attendre 5 Grands Prix, sincèrement.
Voilà. Tout le monde nous parle de Jeddah, de l'Arabie Saoudite, Miami, voilà, pas avant. Moi, il y a un truc qui m'a étonné, les gars, aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est la communication. Alors, Fred Vasseur en a parlé, il a dit qu'il y avait des problèmes de il y avait eu des problèmes de communication dans le choix de rester sur la piste et tout ça. Et puis même, entre les pilotes et les ingénieurs, Jean-Luc, on a vu quand même Hamilton et Ricardo Adami, son nouvel ingénieur, c'était incroyable. Adami qui lui dit tu peux changer de rapport, tu peux faire ça. Hamilton qui à chaque fois lui dit non mais laisse-moi tranquille, c'est bon, j'ai vu. Non mais j'ai vu, non franchement laisse-moi. Et ça dure 4-5 échanges.
La pédale de droite, c'est pour accélérer.
Ouais, c'est ça. On a eu aussi Charles Leclerc avec Bozzi, son ingénieur, quand il lui dit il y a de l'eau dans la voiture, on a une fuite, et que Bozzi comprend pas. Bon, après, c'était un peu, voilà, problème d'interprétation, mais.
Non, mais c'est très Scuderia Ferrari, ça.
C'est trop Scuderia. C'est le cliché même. Ça recommence.
Non mais tu vois Jean-Luc, ça montrait qu'il y avait alors la confusion, en tout cas on n'était pas serein, ça manquait un peu de sérénité sur ce week-end de course côté Ferrari.
Bon bah écoute, on l'a tous dit chacun à notre manière, c'est effectivement l'écurie la plus scrutée de la planète, mais ça a toujours été ça. On n'avait pas les mêmes moyens, j'allais dire, il y a quelques années, mais effectivement il suffit d'une petite phrase lâchée par un collaborateur proche ou pas, intentionnel ou pas, parce qu'il y a beaucoup de manipulation dans la communication, vous le savez quand même. Donc c'est pour
bien
ça qu'il ne faut pas tout prendre comme argent comptant, on laisse échapper une chose, comme McLaren qui disait, pour reprendre un exemple énorme, non, on n'est pas les favoris, parce que cette position de favori ne leur plaît pas, ne leur convient pas. Bon, bah, c'est leur choix, ils peuvent continuer à dire, non, on n'a pas la meilleure voiture, s'ils veulent, personne ne les croit, mais bon. Alors du côté de chez Ferrari, pour revenir à ce qui nous intéresse, moi, je dramatiserai pas tant. Honnêtement, j'attendrai au moins 2-3 Grands Prix. Et puis, encore une fois, Charles a reconnu son erreur en course, mais à mon avis, il n'a pas été bon en qualif également, on l'a dit. Après, il y a eu cette erreur stratégique, je répète, on n'aurait pas dû la commettre sur les deux pilotes. Alors, bon, ça y est, ils sont plantés. Alors, les communications entre ingénieurs, évidemment, avec son bono habituel, ils étaient comme deux frères. Hein. Avec Hamilton, c'est normal. Là, effectivement, on en a fait un petit peu trop peut-être au niveau de Adami, voilà, de Ricardo Adami. Peut-être qu'il lui a dit trop de choses. Effectivement, il a affaire à un septuple champion du monde et puis il faut qu'il se connaisse un petit peu mieux. Il a voulu l'aider. Lewis l'a reconnu après le Grand Prix. Il a dit oui, c'est vrai, il a voulu trop en faire. La prochaine fois, il en fera peut-être un petit peu moins. Alors, il y a juste une remarque de Lewis, et pourtant, encore une fois, lui non plus, enfin, je ne dirais pas qu'il a la langue de bois, lui, il sait très bien communiquer, très, très, très bien. C'est le champion du monde de la communication. Il a dit, après la course quand même, on ne m'a pas signalé qu'il n'y avait pas de la pluie sur tout le circuit. Bah oui, mais là, j'allais dire le pilote, c'est... Là aussi, je suis désolé de vous rappeler une époque où il n'y avait que le pilote qui débrouillait. Hein.
C'est toi
et c'était quand même tellement plus intéressant de mon point de vue, parce que des gens, comme Senna, évidemment, comme Prost ou comme Lauda, étaient capables d'avoir une vision d'ensemble sans avoir quelqu'un qui lui parlait sans arrêt. On lui s'est fait gaffe à ci, fait ça, fait ceci. Donc, on oublie un peu quand même le rôle du pilote. Il y a un moment, je suis désolé, mais c'est quand même le point central du résultat en Formule 1. C'est lui qui est dans la voiture, c'est lui qui tourne le volant, c'est lui qui accélère. Bon, il est bien gentil, Lewis, mais on ne va pas lui dire « Ah bah attention, au 32e mètre avant le virage numéro 1, là ça commence à tomber, mais un peu plus, hein, pas moins que… » Bon, c'est incompréhensible.
Et oui, l'endroit de la piste où il n'est pas passé depuis le plus longtemps, c'était 1 minute 30 avant, donc il y a quand même moyen de savoir un peu ce qui se passe, quoi.
Mais totalement, ce qu'a dit Charles il y a un instant là est révélateur, puisqu'il a dit, au moment où je passais, parce que la pluie, paradoxalement, elle tombait le plus fort du côté des stands, et juste avant, donc dans les virages d'avant, là où les deux McLaren sont sortis également, c'est là que ça tombait le plus, et c'est là que ça a commencé en tout cas, selon le sens du vent. Bah, là aussi, il suffit de regarder les drapeaux, hein, vous l'avez fait comme moi, on voyait bien d'où venait le temps, c'est quand même un élément fondamental, donc on voyait bien que la pluie, elle venait de ce côté-là, et donc la vision que tu pouvais avoir depuis les stands n'était pas forcément la vision. Alors, je sais que sur certains grands prix, et n'hésitez pas, on commence par la Scuderia, il y a des observateurs qui sont vraiment là physiquement pour signaler avec des radios. Attention, ça arrive, la vague, elle arrive ici, elle arrive là, comme ça. Bon, pour moi, c'est un peu trop, hein, je ne vais pas vous surprendre. La place du pilote, c'est la place la plus importante, surtout en course. Mais il y a un moment, il faut le laisser se débrouiller. Voilà, je suis désolé. Et c'est à lui
d'ailleurs,
de faire le
boulot. Souvent les premiers à le dire dans la radio, laisse-moi tranquille,
Oui, oui, oui.
Faut aussi parfois dire, là, on te laisse tranquille, là c'est ton taf là, de savoir si...
Puis après, Lewis Hamilton qui nous a fait une Luca Badoer, c'est beau quand même. Hein.
Oui, c'est
pire,
vrai.
Pire début pour un pilote Ferrari depuis Luca Badoer.
Voilà.
Ouais.
Bah oui.
Ouais. C'est pas bon. On va l'écouter déjà.
Qui aurait cru qu'on allait comparer Luca Badoer à Lewis Hamilton, mais bon,
c'est vrai. C'est vrai. Tiens, Lewis Hamilton, bien évidemment déçu. On va l'écouter. Ouais. Toujours au micro de Canal.
Pretty bad result wise.
Ouais, c'est un mauvais résultat. Mais c'était une course où j'ai beaucoup appris. Un test très difficile et je l'ai passé. Je suis content que ce soit terminé. Je vais faire quelques changements pour être plus à l'aise dans la voiture. Voilà. Ouais, tu le disais. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette course d'Hamilton ? Jean-Luc a dit, pour moi, il fait un bon Grand Prix. Pareil les gars, vous êtes
déçoit pas, voilà. Bien sûr qu'il est.
Oui.
Ouais. Et sincèrement, vu les circonstances, il s'est pas pris les pieds dans le tapis parce qu'il se serait sorti. Alors tu me diras, il y a un Alonso avec plus de 400 Grands Prix qui a terminé dans le mur. Hein, donc on aurait dit oh là là, lamentable. Bon il s'est pas sorti, voilà, c'est déjà pas mal. Hein.
Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et puis surtout, c'est une course d'adaptation. C'est le premier Grand Prix. Moi, ce que je disais juste avant, c'est en particulier sur l'ensemble de la Skoda que je voyais une confusion. Donc, si vous rajoutez à ça Lewis Hamilton qui découvre la Skoda Ferrari, qui découvre l'environnement de la Skoda Ferrari, qui découvre en particulier juste une voiture de la Skoda Ferrari, alors qu'il a piloté tout ça avec un moteur Mercedes, avec des moteurs bien particuliers, des sensations bien particulières. Tout ce septuple champion du monde qu'il est, tout le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1 selon moi qu'il est. Il est dans une phase d'adaptation, il doit réapprendre à piloter ou repiloter d'une certaine manière et surtout comprendre comment piloter une monoplace qui est totalement différente de ce qu'il a pu rouler depuis 2007 en Formule 1. Donc c'est rien d'étonnant, il n'a pas fait de grossières erreurs, il a fait une erreur en qualification, il a tenu dans des conditions extrêmement complexes et chaotiques sur un Grand Prix où il a terminé dans les points. C'est Ferrari dans la globalité qui est plus à mettre à l'amende plutôt que Lewis Hamilton qui est en phase d'adaptation.
Mine de rien, les gars, Louis, tu me dis si je me trompe, mais j'ai quand même la sensation. Alors oui, nous, on est là, bien évidemment, pour pondérer tout ça. Il y a une hype énorme autour de Ferrari.
On pondère, nous.
Ouais. Non, mais les gens, ils voulaient voir déjà un doublé Ferrari avec Hamilton qui était capable de jouer la victoire. Donc on sait bien que c'est... on est en très rationnel.
Les trois virages où il est en tête du Grand Prix, je suis debout.
Bien sûr, mais on a tous été hypés. C'est quoi? C'est il fait trois virages en tête, premier, deuxième, on était tous là comme des dingues. mais bon, est-ce que après cette course-là, même si nous on sait que ça va demander un temps d'adaptation, que Ferrari n'est pas au niveau de McLaren, est-ce qu'ils ont déjà un petit peu chaud aux fesses, les amis de Ferrari, avant le Grand Prix de Chine? Si tu réagis pas en Chine, ça peut commencer à être un peu compliqué. C'est ça. Pour l'opinion publique, en tout cas.
Là, ouais. Là, disons qu'ils n'ont pas encore chaud aux fesses, mais clairement, là, on a allumé le chauffage, tu vois. Et à partir de la Chine, ils vont ressentir la chaleur si ça ne se passe pas mieux. Ils doivent clairement avoir un moment de... un week-end propre, solide, ou au pire... ils font 4 et 5, mais en, tu vois, et bon, bah voilà, mais faut faire mieux. Et comme l'a dit Jean-Luc, je pense qu'il a raison, je pense qu'il y en avait un petit peu plus et que Charles n'a pas su faire le taf alors, en qualif, lui qui se rate rarement quand même dans cet exercice. Ça serait là-dessus que je trouverais un peu d'espoir, c'est que je me dis, je pense qu'elle en a un petit peu plus et que peut-être ils ont juste pas mis tout bout à bout ce week-end-là et que ça peut se passer différemment en Chine.
Voilà, de mon point de vue, tu viens de le rappeler, Louis, c'est vraiment Charles l'étalon, hein, parce que lui, il est chez lui depuis 2019, il connaît la monoplace.
Monsieur Ferrari, comme l'appelle Lewis.
Oui, ouais. Bien sûr, mais exactement. Non, mais tout est clair. Donc, c'est lui la référence. Donc, il faut juger les performances de Lewis par rapport à celles de Charles, une nouvelle fois. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis le résultat brut est décevant, bah, évidemment, dixième, mais il a pas tellement déçu puisque Charles n'est pas beaucoup devant. Je pense, vous me voyez venir, hein, la Chine, ça va être une chose, mais moi, j'attends beaucoup le Japon. Évidemment, parce que voilà un vrai circuit. Un des plus beaux au monde. Et là, ça met en exergue toutes les qualités tant du pilote que de la voiture, que de la monoplace. On aura eu 3 Grands Prix, on aura évolué. Là, oui. Là, on pourra juger. Tu vois, je parlais de 5 Grands Prix, mais je pense qu'après le Japon, déjà, on y verra clair. Et là, on aura une solide vision de la hiérarchie. Et je peux déjà vous dire, les McLaren devant, et je pense derrière, les Ferrari et les Mercedes. Et puis, une nouvelle fois, je parle des voitures, hein, une nouvelle fois, la RB 4e. On verra.
Ouais. Plongeons-nous un petit peu dans ce top 10 là, avec cette perf de Kimi Antonelli qui arrive à aller chercher la 4e place. Alex, en plus tu nous as dit, je me rappelle de ton pari de Zinzin, vous pouvez réécouter le podcast, il est dispo. Alexandre Caldi nous a dit Antonelli va gagner une course Jean-Luc en 2025, il nous l'a dit.
C'est possible. Bah là, il a démontré un solide talent. Bon, enfin, je laisse répondre, mais si, quand on va parler des rookies dans l'ensemble, bah, c'est lui qui les sort de l'eau, si tu me permets l'expression. Hein. C'est lui qui les sauve.
Mais en fait, il fait un grand prix, Alex, là, Antonelli, quand même, dans ces conditions-là. Moi, j'ai vu notamment, il y a des dépassements. Il y a un dépassement extérieur, je crois que c'est
sur Albon.
C'est sur Albon, c'est sur une Williams. Sous la flotte, mais des trompes d'eau, où il a du cran, bien évidemment. Il est jeune, mais il se trouve pas, quoi.
En fait, c'est pas une question de voiture, là, c'est vraiment une question de pilotage. Quand on est sous la pluie dans des conditions aussi dantesques et, comme je disais, très chaotiques, là, on ne parle plus réellement de voiture, on parle réellement de prise, d'avoir du sang-froid dans des conditions aussi compliquées et surtout que tout le monde est remis, on va dire, sur le même piédestal. Allez, on va dire ça. Là, on parle quand même de Andrea Kimi Antonelli, qui vient à peine d'avoir 18 ans, qui fait son premier Grand Prix en Formule 1 et qui réalise une telle performance. En qualification, ce n'était pas de sa faute. S'il avait terminé loin, il n'est pas allé au-delà de la Q1, c'est à cause de la voiture, il y avait une caisse mécanique dessus. Là, en Grand Prix, alors qu'il a, sur le début de Grand Prix, c'était très calme pour lui, on va dire ça ainsi, dans le sens, non pas sur la piste, parce qu'il a dû batailler pour ne pas sortir de la piste, mais plutôt du point de vue de progresser dans le classement. On a senti vraiment une course de sang-froid, c'est-à-dire, ok, c'est mon premier Grand Prix, je ne fais pas de folie. Par contre, dans le moment critique, là, j'attaque. Et il a fait ça sur Alexander Albon. Les bonnes prises de décision aussi vis-à-vis de la stratégie pour s'arrêter au stand de la meilleure des manières, de la fenêtre optimale. Et il a réussi un Grand Prix qui est pour moi parfait pour justement amorcer une carrière.
À part le tête à queue du 17e tour.
Oui, c'est vrai. J'avais un petit
faut quand même le rappeler. Non, mais c'est vrai, parce que je te dis, il se met dans le mur et il est comme les autres rookies.
Mais non, mais je suis d'accord. Et pourtant,
mais là, il s'y met pas.
Mais Verstappen a fait une erreur. Carlos Sainz s'est sorti dans ce Grand Prix. Fernando Alonso s'est sorti dans ce Grand Prix.
Ah ouais.
Non, mais bien sûr. Mais pour remettre dans l'exemple, lui, il s'est sorti, mais il n'a pas cassé la voiture. Il est reparti. Il termine 4e de ce Grand Prix. Et c'est ça, en fait, que je mets en valeur. C'est-à-dire qu'on est sur un pilote qui, d'ailleurs, est le deuxième pilote sur la grille, sur les premiers Grands Prix de tous les autres pilotes, qui termine le deuxième le plus haut, puisque le premier c'était Lewis Hamilton en 2007 où il terminait 3e. Lui il termine 4e. C'est dire l'effort qu'il a réussi à faire et l'exploit qu'il a réussi à faire. Et j'ai envie de dire.
Deuxième plus jeune pilote à marquer des points.
Exactement, c'est
derrière Verstappen.
Verstappen. Et je pense qu'on peut le dire, c'est peut-être pas trop tôt pour le dire, mais que Toto Wolff et Gwen Lagrue ont fait l'excellent choix à l'heure actuelle de mettre Andrea Kimi Antonelli. Parce que réussir à rester sur la piste et faire une aussi grosse performance, de partir d'aussi loin et remonter aussi haut, pour un tout premier Grand Prix dans des conditions telles que celle-ci, c'est une masterclass. Vraiment, c'est vraiment
ouais, il a fait plus que répondre aux attentes pour sa première course.
Et puis il a la comparaison qui va pour lui, c'est-à-dire que tous les autres rookies ont tellement souffert.
Justement, c'est ce que j'allais dire. Ouvrons le dossier rookie. Alors. Mais moi le premier, mais moi j'étais là, mais c'est génial cette saison. Il y a des rookies dans tous les sens, des line-up de pilotes différentes. Ils se sont tous marbrés, sauf Antonelli.
Sauf Antonelli, et pour être honnête, Bortoleto, je reste interrogatif sur la manière dont il s'est sorti, parce que je pense que c'est une caisse de suspension et que c'est pas lui qui s'est mis derrière. D'ailleurs, Bortoleto, très très bon grand prix dans l'ensemble, mis à part donc cette caisse mécanique. Mais Antonelli, oui, ça a été le plus fort. Burman, lui c'est sûr, il est pas cocu en tout cas, hein, parce que il a pas de chance de cocu. Hein, lui, c'est vraiment, il a eu que de la mauvaise chance. C'est terrible.
Le week-end est mal parti, quoi.
Et puis fou comment un gars qui a
aussi bien performé
à chaque fois qu'il a été dans la Haas avant et nous a tous impressionnés. Alors pareil,
la voiture est pas bonne, t'as vu, Stéphane, il en fait rien non plus.
Oh là là,
la voiture est très difficile à piloter, très difficile.
2 secondes des temps, enfin bref.
Haas 2021, Laurie Burr.
Mais c'est ces pauvres rookies, c'est terrible. Hein. Terrible.
Ouais, Jean-Luc, les rookies, alors. Mais toi, je sais qu'en plus. Toi, tu veux pas. Enfin, le jeunisme à outrance, je sais que.
On va pas caricaturer mon Nico si tu veux bien, parce que moi j'étais ravi de voir 6 nouveaux pilotes, parce que autant j'étais désolé, il y a du recul maintenant par rapport à 2024, de voir qu'il n'y avait pas un seul changement, ce qui n'était jamais arrivé en Formule 1 et ce qui est à mon sens anormal. Bref, ça s'est passé comme ça, peu importe. Là, je trouve qu'il y en a peut-être un petit peu trop, mais tu sais, la F1 est sujette à des modes sans arrêt, donc c'est un peu ça. Ils sont bons, ils arrivent, ils sortent de la F2, ils sont tous excellents. Alors, certains ont beaucoup de talent, on vient de parler d'Antonelli, donc on va en reparler très peu dans ce chapitre, parce qu'on en pense tous que du bien pour le moment. Encore une fois, lui laisser 4-5 Grands Prix pour voir vraiment. Hein. Là, il s'est super bien débrouillé, c'est magnifique. Bon, on va attendre. Alors les autres, on va évacuer tout de suite aussi le problème du pauvre Hadjar, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Il a bu le calice, mais vraiment jusqu'à la lie, c'est la honte absolue, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, il n'en revenait pas, vous avez vu, il était atterré, il sanglotait dans son casque, il n'a pas enlevé le casque, il était sidéré. Littéralement, c'est le sens premier de la sidération. Il n'arrivait pas à réagir. Il a fait la boulette qu'il ne fallait pas. En plus, avant le départ du premier Grand Prix de la saison, etc., en plus, ça entraîne un retard de. Ça bloque carrément le dispositif. Donc là, on ne peut pas faire pire. Voilà. Donc lui, il l'a fait. On ne peut que le pauvre, lui, il va falloir repartir maintenant, mais il part avec un handicap, ça c'est clair. Parce que surtout chez Red Bull, tu me vois venir. Hein. Je pense qu'il y a un certain Helmut Marko qui ne laisse pas passer grand-chose. Lawson, c'est pareil. Hein. Lawson, on le met dans la voiture à la place de Tsunoda. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et puis, il fait un Grand Prix mauvais. Il est pas là en qualif et en course, il fait rien. Et il se met dans le mur. Donc, ces deux-là, c'est évacué. Alors après, les autres, moi, je sortirai aussi. Je suis un petit peu d'accord. Bortoleto du panier, parce qu'il fait une performance tout à fait correcte. En comparaison de son équipier, il faut toujours penser à ça. En comparaison d'Hülkenberg qui est solide et qui finit 7e et qui a beaucoup de métiers quand même. Hülkenberg, c'est quand même un type qui a plus de 200 départs en Grand Prix là aussi. C'est vraiment du sérieux.
Et combien puis, de podiums vous
Et vous me permettrez de rire quand même. Bon, alors, à Yadouane, allez, il faut en parler. Alors, lui aussi, le pauvre, là c'est erreur typique du rookie. Voilà, le premier tour, sous la pluie, chez lui, il a une pression terrible, il se met dans le mur. Alors, il est dédouané quelque part, il est presque couvert par Sainz, qui, dans le même tour, se met dans le mur aussi.
Sous safety car.
Ça veut dire que la piste est tellement piégeuse là-bas, mais on l'a dit et redit, c'est tellement dramatique que l'enjeu, c'était vraiment de finir. Voilà, c'était vraiment de terminer sous le drapeau à damier. Et j'allais dire, c'est peut-être le seul crédit qu'on peut, du week-end qu'on peut porter au crédit d'Oliver Berman. Ouais. Il a fini. Très loin, mais il a terminé. Voilà.
C'est clair. Même par rapport à Hadjar, je pense qu'on a tous vu la déclat d'Helmut Marko qui a dit qu'il n'avait pas tellement apprécié le fait de voir...
C'était gênant.
De voir Isaac Hadjar faire un tel show de larmes d'une certaine manière. Là, sur les derniers jours, Helmut Marko, il a fait que des déclats catastrophiques. Il a classé les rookies en disant qu'Antonio c'est un pilote de catégorie A, que Doohan c'est un pilote de catégorie C qui finira pas.
Il l'a Bortoleto c'est B.
Bortoleto c'est B. Même Fernando Alonso est en mode mais tu peux de quoi tu parles. Bortoleto a répondu en disant qu'il était.
Il a été très bon sur la piste.
Il a été très bon sur la piste avec une excellente séance de qualification où il rentre en Q2, ce que n'avait pas réussi à faire Nico Hülkenberg. Mais pour ce qui est d'Helmut Marko face à Isaac Hadjar, c'est vraiment, on souffle. C'est-à-dire qu'on a un beau moment de sport, j'ai même envie de dire ça, alors dans la tristesse, dans la détresse, avec le papa de Lewis Hamilton qui vient enlacer, consoler.
C'est du show, mais je trouve que c'était beau.
Il y a une certaine beauté vis-à-vis de ça et qu'on avait tous une certaine tendresse vis-à-vis d'Isaac Hadjar parce qu'on était tous déçus forcément par ce moment difficile.
Mais c'est surtout qu'il fait un bon week-end, Isaac, en plus.
Et de là, on est obligé d'écouter le tonton aigri au dîner de famille qui à chaque fois fait à chaque fois des raps et dit des conneries, quoi. Et ça commence un peu à être.
Mais c'est son jeu, Marco. On le connaît depuis des années.
Mais c'est pas parce qu'on le connaît qu'on doit accepter aussi tout ce qu'il dit, quoi.
Il a un plaisir, infini à détruire des gamins de 20 ans. Ça en devient un peu.
Non, là, je crois que vous êtes dur. Et vous oubliez une chose, les gars, hein, parce que moi je l'ai connu pilote, avec Helmut Marko, il a remporté les 24 heures du Mans et à une époque où il s'en tuait pas mal chaque année. Non, écoute, vous pouvez penser ce que vous voulez de ces déclats, là moi je suis d'accord aussi, il en fait trop, mais j'allais dire et alors Gunther, alors dans la série Bouffon, lui il n'a pas été pilote et lui il n'a pas été foutu de mener une écurie, alors dans les guignols qui racontent n'importe quoi, moi je le mets numéro 1.
On te rejoint aussi, mais Marko on le met peut-être sur le podium aussi.
Si tu veux, Helmut, il est trop dur, là je suis d'accord, puis en plus on s'en fout, le gamin il pleure, c'est comme ça, il est affectif, il est ok, il y a rien à dire d'ailleurs, il y a juste un voile pudique à jeter, tu vois, et c'est pour ça que je te dis le cinéma de Anthony Hamilton qui vient, alors lui aussi, moi ça me gonfle, tu vois, mais vraiment. Ça me gonfle. Il lui donnait une bonne tape dans le dos, mais alors après, il y a toutes les caméras autour. Mais arrête ton show, vieux. C'est pas toi le septuple champion du monde, c'est ton fils.
Après, pour mettre un parallèle par rapport à ça, il est revenu le voir plus tard à l'intérieur du box Visaka Chaperbe. Je crois qu'il y a même Stefano Domenichelli qui est venu le voir à l'intérieur. Donc,
c'est bien.
Oui, c'est bien.
Une démarche humaine, mais discrète. Tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr.
Oui, bien sûr. Voilà. J'ai bien aimé aussi juste le petit plan. On le voit arriver sur le pit wall. Et Isaac il vient s'excuser machin, et là je sais pas lequel parce que c'est pas Mekies,
c'est Hamelin.
Il l'attrape et il le serre tu sais, mais vraiment c'est touchant, c'est spontané, il y a un côté plus que pilote à ingénieur, il y a un côté petit gars, quoi, viens on te réconforte, tu nous as aussi fait de la peine,
ça va aller.
Je pense que pour conclure ça, c'est surtout un aspect de, on est en train de construire quelque chose avec Isaac,
il faut pas le perdre au premier,
et ça sert à rien de l'accabler sur ça.
Là, va falloir être costaud dans le casque en Chine. On va juste l'écouter, Isaac Hadjar, au micro de Canal, après la course, touchant.
Je sais pas, je suis juste gêné et désolé pour l'équipe. Et je savais que le tour de formation, c'est là où il fallait mettre le plus de température, le plus de travail tu fais, mieux c'est. Et puis voilà. J'en reviens pas, quoi. Ouais, on voit il sait ce que c'est, des moments durs. C'est pas nouveau pour lui et il m'a vu passer. Enfin, c'est gentil de sa part, mais c'est sûr que ça fait quand même mal. Mais ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça te réconforter. Quoi.
Comment il fait, Jean-Luc, là, en termes de pilotage, c'est quoi l'erreur d'Isaac dans le tour de formation là pour perdre la monoplace?
Ah, écoute, ça c'est le pire, et il y a pas plus. Comme il le dit, il a zéro température dans les pneus. Alors effectivement, certaines explications, Brundle a dit il est passé sur la bande blanche, mais à cet endroit-là, il y en a plusieurs, vous l'avez vu comme moi, hein. On est obligé de les croiser, les bandes blanches. Non, c'est pas ça le problème, c'est le couple qui arrive d'un coup. C'est comme ça que Sainz se fait piéger. C'est-à-dire que même un pilote de ce calibre-là, et là c'est un peu logique, simplement, il a voulu trop en faire un peu trop tôt. Monter les pneus en température, oui, mais peut-être pas à la sortie du premier virage, avant même le deuxième qui n'en est pas un, qui est une longue courbe à gauche. Il a appris, et c'est ça qui est important, ça s'appelle capital d'expérience. Il a appris un truc, là, c'est très cher payé, hein, vraiment très cher, parce que même s'il va essayer de repartir de zéro au prochain Grand Prix, surtout s'il pleut, tu vois ce que je veux dire, il va avoir ça, il a ça dans la tête, là. Là c'est une blessure, hein, c'est une vraie blessure. Il va mettre quelques temps à s'en remettre, et puis on en parlera toute sa carrière de ça. Même s'il est champion du monde un jour, on lui dira, bah oui, tu te rappelles, dis donc, premier Grand Prix, t'as même pas pris le départ. Bah oui, c'est comme ça, c'est l'histoire. Il faut faire avec parce qu'il ne pourra pas faire sans. Bon, plein se sont relevés. Hein. On rappelait quand Hamilton s'était sorti avec la Ferrari en essai privé, vous vous rappelez, à Barcelone, là. Mais c'est normal, il s'est sorti avec la McLaren et il s'est sorti avec la Mercedes. Ouais. Moi, ça me fait toujours rigoler. Mais le mieux, c'est de ne pas sortir, hein, quand même.
Oui, c'est sûr. On vient de passer 10 minutes à encenser Antonelli. Il y a 6 mois, il sort la voiture à ses premiers essais.
Exactement. Tout à fait.
Donc, c'est pas non plus rédhibitoire, mais en effet il faut pas que ça se reproduise, ça c'est sûr, et il faudrait surtout en plus faire une petite performance pour qu'on se redise, ah oui non mais c'est quand même un crack, on va oublier tout ça.
Les flops du premier Grand Prix, les gars, on termine avec ça, ce premier débrief de la saison. Bon, As, on en a parlé brièvement, Jean-Luc, mais la voiture n'est pas au niveau et on est surpris parce que ils avaient fait une bonne saison l'an passé, on était plein d'espoir, ce duo de pilotes, les évolutions, ils en avaient gardé un peu sous le coude lors des essais là, mais ils avaient déjà fait ça en 2024, enfin bref, on ne s'attendait pas à voir As aussi loin sur la première course.
Bien sûr, alors si tu me permets mon Nico, je vais rebondir d'ailleurs, puisque tu parles de As, on va parler d'Ocon, il a fait ce qu'il a pu le pauvre Esteban, mais un Grand Prix catastrophique, et là il y est absolument pour rien, c'est que vraiment la monoplace n'est pas au niveau du tout, alors là eux pour le coup, ils ont très très mal travaillé, on comprend même pas, parce que c'est même pas en corrélation avec globalement ce qui s'était passé à Bahreïn, c'est bien la preuve une nouvelle fois, on peut rebondir là-dessus, que les leçons qu'on essaie de tirer, les leçons complètes des essais préliminaires à Bahreïn ne valent rien ou pratiquement rien, la preuve. Donc As n'était pas là du tout, As c'était plutôt correct, c'était pas excellent, mais bon, là c'est une catastrophe, donc là il va falloir relever la barre. Et alors Pierre Gasly, puisque tu me permets de parler des Français aussi, on n'a pas du tout dit un mot de lui, lui il se qualifie pas mal, hein, avec la voiture qu'il a, il est dans le Q3, il est neuf. Après on voit bien qu'en course, c'est là aussi il se sort les tripes, hein, véritablement pour faire ce qu'il fait, et puis à la fin la vérité éclate, il peut pas tenir avec les Ferrari autour de lui, avec le retour de Piastri. Malheureusement, il ne marque aucun point, mais il fait un Grand Prix tout à fait honorable. Donc As, c'est le flop en tant qu'écurie. Ouais, je suis d'accord.
Gasly, je crois que Gasly, il a eu un problème de frein avant, je crois.
Ouais, il parle d'un problème de frein pour la fin, mais surtout, il rappelle quelque chose, c'est qu'avant avant cet enchaînement un peu chaotique de fin de Grand Prix, il est devant Antonelli, qui finit quatrième. Et derrière, c'est un peu juste les choix stratégiques qui font qu'il sort des points. Et la frustration, elle était énorme hier, parce que le Grand Prix, il est quand même solide. Il reste à peu près à sa place tout le Grand Prix. Au gré d'un abandon ou deux devant, il remonte d'une ou deux. Derrière, il y a tout ce truc stratégique et à la fin, il se retrouve un peu le dindon de la farce 11e. Et là, ça, c'est quand même dommage.
Ça fait penser aussi à Tsunoda. Hein. Tsunoda qui fait une excellente séance de qualification aussi, et puis derrière, même cas qu'ils acquittent à 0 points.
Bam. Ça c'est vrai que c'est la F1.
Tsunoda, c'est la même addition que Ferrari. Hein. Il arrête trop tard, pour être clair. Lui aussi, il mérite d'être dans les points. Ouais. Hein. Mais il l'arrête au 48e tour, comme les Ferrari.
Ce Grand Prix aussi montre à quel point cette saison 25 de Formule 1 va être tellement complexe et difficile pour les écuries de midfield pour aller marquer des points quand tu sais que tu as deux Red Bull pour l'instant, une Red Bull, deux McLaren, deux Ferrari, deux Mercedes. Tu as Aston Martin qui peut être intéressante. Je trouve que les rythmes d'Alonso et de Stroll sont plutôt intéressants. Et Stroll qui fait. Lance Stroll qui pleut, c'est Ayrton Senna visiblement. C'est aussi très bon pour Aston Martin dans la globalité, donc ça va être tellement difficile d'aller marquer des points, et même pour les top teams, dès que tu fais une petite erreur, tu passes à la potentielle première ou deuxième place à la huitième place, quoi.
Comme un moto, il va falloir leur donner des points jusqu'au 15e. Hein.
Ouais, c'est ça.
Non, mais c'est vrai, ça a été étudié. Hein.
Ils vont être 22 l'année prochaine. Donc,
Des points jusqu'au 22e. Comme tout le monde a gagné, tu sais.
Mais moi, je serais enclin à mettre un petit peu plus de points. Genre, soit tout le monde met des points, soit on met à partir de la 14e ou 15e place. Parce que si on a de retour les 22 pilotes l'année prochaine, 22 voitures, et potentiellement 24 voitures l'année prochaine. Dans un avenir assez proche selon la F1 et selon la FIA, Ouais, je pense qu'il va falloir penser à ça parce que la convergence.
Ah ouais, mais pour les classements, moi, Alex, pour les matchs, là, ça va commencer à être compliqué. Hein. Faut penser aux observateurs, les gars.
En IndyCar, je crois.
En IndyCar, exactement. C'est tous les points. IndyCar, c'est ça.
C'est vrai que demain, t'as une.
Et en NASCAR.
Demain, t'as une grille à 22 ou 24, tu fais 12e, t'es dans la première moitié. Bah, 24. Tu fais 18, t'es quand même pas loin du fond. Donc, ça paraît. Il y a une certaine logique à dire, pour le 12e, il mériterait d'avoir une reconnaissance supérieure au 18.
Je rappelle, il me semble que les points, la place où tu termines, tu récupères une prime, il me semble.
D'accord.
Ah bon ?
Il me semble soit de la FIA, soit une récompense. Mais du moins, je.
Excellent. Bon, on n'a pas parlé d'Hülkenberg et de Sauber. Ouais. C'est peut-être la seule course où on va en parler. Quand même.
Non, tu sais qu'en fait, non, même pas. Hein. Moi, je pense que Sauber, cette année, ça peut. Il y a James Kay qui est le directeur technique. Il y a beaucoup de choses qui ont changé sur la voiture.
C'est vrai.
C'est pas un pain, James
Kay. Pas si mal.
Hein.
Pas si mal.
Je suis peut-être un peu mauvaise langue, un peu taquin.
Bon, c'est un peu dur. Et puis Portoleto. Moi je le sauve du naufrage là aussi.
Et puis mine de rien, il retrouve aussi un line-up parce que j'adorais Valtteri, mais je pense que Valtteri, il était clairement sur son gravel.
Il fait du vélo maintenant.
Voilà. Donc voilà, Zou, c'était pas le génie de sa génération, même si il a même été solide. Ouais. Moi, je le trouvais quand même suffisamment solide.
Là, une ou deux fois, il était bon.
Ils ont Hülkenberg, Hülkenberg qui a quand même depuis son retour chez Haas, je trouve finalement, bien qu'il ait jamais été aussi vieux, a une certaine fraîcheur que je lui connaissais pas forcément à une époque antérieure comme au temps de Renault par exemple. Il a l'air bien dans sa vie à tout niveau. La voiture, elle avance vite, il fait pas d'erreur, donc super. Le Bortoleto, pour le moment, il est allé dans l'ongle, il sort d'un titre de F2, il est au top. Il y a une dynamique, à voir comment ça se passe. Alex nous dit que ça peut bien se passer, pourquoi pas, parce qu'on souhaite jamais.
Pour rire, le problème, il y a Binotto quand même. Il y a Binotto, là c'est le problème.
À noter que Jonathan Whitley arrivera en tant que team principal de l'écurie à partir du 1er avril.
C'est quand même des noms pas mal. Quoi. Ils ont un petit CV, les gars.
Vous voyez, au final, je lui mets 4 étoiles à ce Grand Prix.
Allez, hop.
Voilà.
C'est génial.
J'ai été mauvaise langue, j'ai été petit joueur pour lancer la saison, j'étais grognon. Bon, on vous donne rendez-vous pour le Grand Prix de Chine, les gars, puisque je vous rappelle que ça enchaîne. Jeudi, le warm-up et lundi, le débrief avec Jean-Luc. On s'est quand même globalement régalé sur cette première course. On ne sait pas ce qui va se passer en Chine. C'est aussi la magie de cette saison 2025.
Moi, je fais la danse de la pluie, mon Nico. Je fais la danse de la pluie.
Ah ouais, on peut. Ah bah ouais.
Oh, l'escargot sous la pluie, là, le premier virage sous la pluie, ça peut être dantesque.
Ça peut être sympa.
Ça peut être exceptionnel. N'oubliez pas, si vous aimez ce podcast, vous le partagez à fond sur les réseaux sociaux. Alex, t'es en train de monter des vidéos là, il y a les débriefs du Grand Prix qui tombent sur tes chaînes.
Toujours TikTok, toujours Insta et toujours Twitch aussi forcément et sur YouTube.
Ah, bien sûr, on va regarder tout ça. Et puis n'oubliez pas les 5 petites étoiles là pour noter le podcast sur les plateformes de téléchargement. À jeudi, bye bye.
Ciao, ciao.
Salut à tous.
Le paddock RMC.